Nous allons parler
pognon.
Il y a des sujets sur lesquels on a souvent du mal à s'accorder. Celui-là. On préfère ne pas en parler. Ainsi, on évite un certain nombre de problèmes. Surtout que déjà, il y a aussi la politique. On n'en parle pas souvent. À table. Tous les peuples n'ont pas le même rapport à l'argent. Il y a un chef d'entreprise français qui a une boîte aux États-Unis et il disait à la télé, l'argent n'est pas tabou aux États-Unis. Les salaires sont affichés. Tout le monde connaît le salaire de l'autre. Toutes les familles n'ont pas le même rapport à l'argent. Il y a des époux qui ne savent pas combien gagne celui avec qui ils partagent le même toit. Toutes les églises non plus n'ont pas le même rapport à l'argent. Il y en a qui en parlent tous les jours, qui cherchent que par quelle stratégie en faire rentrer beaucoup d'argent. Il y a des églises qui en parlent tout simplement. Comme il parle de foi, comme il parle de réunion. Et il y a aussi des églises qui n'en parlent presque pas. L'objectif que je me propose d'atteindre ce matin, c'est d'amener le peuple de Dieu à donner librement son argent à l'église. C'est un devoir vis-à-vis de la communauté, de l'association ou du groupe que nous fréquentons, tout simplement. Notre monde est régi par l'argent. Le moyen de paiement, c'est bien l'argent. Tous les pays au monde prélèvent des impôts. Ces prélèvements servent à payer les serviteurs de l'État, à construire des infrastructures et aussi à aider les plus vulnérables. Jésus-Christ était bien conscient de la chose. Ne dit-il pas dans Luc 20, verset 25, « Rendez donc à César ce qui est à César, et aussi rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous pouvons aussi lire dans le même esprit, Romains 17, le verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous le devez, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est ainsi que nous devons nos contributions à nos différents groupes que nous fréquentons. Parce que dans ces groupes, il faut bien payer le loyer si les locaux qui nous accueillent ne sont pas notre propriété. Si l'électricité n'est pas gratuite, il faudrait bien le payer. Autre charge dont le groupe doit s'acquitter. Il faudrait bien le payer. Et l'argent, pour payer ses frais, doit venir de quelque part. Jusqu'ici, par rapport à nos associations et différents groupes, on ne trouvera pas, ni ici, ni ailleurs, grand-chose à dire. Mais quand il s'agit de donner à l'Église, les voix deviennent quelque peu discordantes. Vous avez certainement déjà entendu dans vos familles, avec des amis ailleurs, à faites attention en donnant à l'Église. Vous avez déjà entendu ça? Ces églises veulent que de l'argent, ne vous veulent que pour votre argent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses comme ça. En tout cas, c'est des formules qui existent bel et bien. Il y a des églises où, sur Internet, vous voyez des chefs d'église, des responsables d'église très puissants, qui sont tellement puissants financièrement, et en face d'eux, ils ont un peuple qui croupit dans la misère. Des pasteurs qui demandent de l'argent, encore de l'argent, et leur peuple ne comprennent plus rien. Est-ce que pour cette raison, nous ne devrions pas donner? Nous devrions donner notre argent à l'Église. Donner est une forme d'adoration. C'est bien en donnant que nous prouvons notre générosité. C'est en donnant à l'Église que nous faisons avancer l'œuvre de Dieu. Que faut-il donner? Nous allons prendre quelques exemples à travers la Bible pour voir comment il faut donner et que faut-il donner. Acte 4, à partir du verset 32, nous lisons. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Car il n'y a parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Le verset 35. Et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph, surnommé Barnabas, avait vendu son champ et a posé tout l'argent aux pieds des apôtres. Un autre couple, Ananias et Saphira, ont voulu faire de même. Et l'histoire devient tout de suite tragique. En lisant l'histoire de Ananias et de Saphira, qui s'est mal terminée, on comprend que le peuple pouvait garder ce qu'il a. Il n'était pas obligé. Mais il faut pas mentir. Ananias et Saphira sont tombés pas parce qu'ils ont vendu leur terrain et n'ont pas déposé la totalité, mais parce qu'ils ont menti avoir déposé la totalité. Ananias et Saphira ont voulu se faire voir, ont voulu faire la même chose que Barnabas, Joseph avait fait, mais seulement ils se sont fait tenter par le diable. Le verset 4 nous le dit explicitement. Quand Pierre leur dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas, si tu n'as pas vendu ton terrain, il reste encore ta propriété. Après maintenant qu'il lui était vendu, le prix était encore à toi. Mais c'est par la suite que la chose se gâte pour eux, où ils ont fini par mentir, ils ont déposé une partie et ils ont prétesté avoir tout déposé. On ne nous demande pas d'aller vendre, de nous dépouiller. pour venir à l'église, pour donner à l'église, mais que nous donnions sincèrement et comme nous avons résolu de le faire. Nous allons prendre un autre exemple à part celui que nous trouvons dans les Actes. Dans 1 Roi, le chapitre 17. Il s'agit là du prophète Élie, qui se trouvant dans une situation de sécheresse où il n'y avait pas... On va le lire. On va lire à partir du verset 10. Il se leva et il alla à Serpata. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y a là une femme, veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant et il n'est rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela et moi, pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et aussi sa famille. La veuve dont il est question ici, Dieu a envoyé Élie à lui pas parce que Dieu n'avait pas un moyen de nourrir Élie. Il a déjà fait par le passé avec le corbeau. Dieu s'est servi d'un corbeau, d'un étang pour nourrir son prophète Élie. Mais là, Dieu envoie Élie à cette veuve. Qu'est-ce que nous apprenons par la suite? La veuve s'exécute, donne ce qui lui reste, le peu qui lui reste, elle donne ça à Élie. Et je prête ces mots à quelques messages que nous avons écoutés en ces lieux. Elle a osé la foi. Elle a osé, elle a misé sur la foi. Elle a donné tout ce qui lui restait. Et le résultat, c'est quoi? C'est que durant tout le reste de son séjour sur cette terre, il ne lui manqua rien. Il ne lui manqua rien dans sa cruche. Elle eut toujours à manger. Une autre veuve qui va nous intéresser dans notre manière de donner et comment donner, c'est celle que nous trouvons dans les évangiles, Luc 21, le verset 2, où Jésus jeta un regard sur cette dame, cette veuve, certainement démunie de tout, qui, avec ces 2 pièces qu'elle a, elle mit tout dans le tronc. C'est ce qu'elle avait. C'est pas beaucoup. Ces 2 pièces, elle mit dans le tronc. Nous voulons faire remarquer là que l'argent qui est mis dans le tronc servait à l'entretien du lieu saint. Ça servait à l'entretien du temple. Elle a mis les 2 pièces d'argent qui vont servir à l'entretien du temple et cet acte qu'elle a posé et que le Seigneur a fait remarquer, lui prépare bien d'autres récompenses. Pas ici, pas forcément ici, mais dans le ciel. Il y en a qui donnent ailleurs, qui nous servent à faire de grandes choses ici. Quand je préparais ce message, j'en ai écouté plein d'autres. Et ces actes où des veuves donnent ce qu'elles ont, mises sur la foi, m'ont fait penser à deux exemples que j'ai vécu personnellement. Le premier, c'était il y a une quinzaine d'années, dans la construction d'une église au Togo, où il y avait, l'église n'avait pas les moyens de réaliser ce projet. Mais par la foi, par la volonté, Dieu a érigé ces murs qui existent toujours. Toujours dans le même ordre, ces locaux qui nous accueillent. Si je ne me trompe pas, nous avons 20% de contribution de notre part de l'église. Il y a d'autres églises qui sont ailleurs, en Allemagne. Certains d'entre eux qui ne connaissent même pas ces lieux, qui nous font profiter de cette belle salle. Ils ont donné quelque part et ça a servi ici. Si nous lisons le livre des Corinthiens, les chapitres 8 et chapitre 9, nous voyons que Paul ne parle que de dons. Des dons réunis quelque part qui servent ailleurs. Les dons réunis pour aider ceux qui s'occupent de la parole de Dieu. Il parle des saints, il parle, parlons des pasteurs, parlons des frères, parlons de ceux qui en ont besoin. Chaque fois que nous donnons, aussi bien ça sert à payer les charges que nous avons ici, ça peut aussi servir à aider d'autres personnes ailleurs. Nous sommes du moins là où nous adorons, si c'est un exemple vivant de ce que Paul disait déjà à l'époque par rapport à ce que l'église qui est en Macédoine avait fait. Paul, il dit quelque chose de très intéressant au verset 3 du chapitre 8. Il atteste qu'ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et pour certains, au-delà de leurs moyens. Et il nous dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour tous, faites en sorte d'exceller aussi dans les œuvres de bienfaisance. La Bible ne nous rappelle-t-il pas, en ce qui concerne le rapport œuvre et foi, montrons notre foi par les œuvres. Montrons notre foi par notre manière de donner. Donner, c'est bien une forme, nous l'avions dit tantôt, une forme d'adoration. Cependant, quand nous donnons, Paul dit, c'est pas, faut pas qu'on expose, c'est pas pour nous exposer, c'est pas pour nous dépouiller que nous donnons. Dans le livre de Timothée, nous trouvons quelque chose qui est très intéressant, c'est l'attitude que nous devrions avoir par rapport à nos finances. Donnons. Mais quand nous donnons, il ne faut pas que nous faisons pas du tort à notre famille. Celui qui ne s'occupe pas bien de sa famille, prétextant qu'il donne à l'Église, ne fait ni du bien à l'Évangile, ni du bien à sa famille. Je pense, si il y a besoin, on donne déjà bien intelligemment, qu'il y ait une étude carrément de gestion de compte. On sait bien gérer. On sait bien gérer, j'en doute pas. S'il peut avoir une étude sur la gestion très intelligente de ses comptes, ça peut toujours aider les uns les autres, surtout moi. Avant de conclure, nous allons parler des choses qu'on n'évoque pas toujours dans notre Église. Sur les enveloppes où nous mettons nos offrandes, il est écrit le 2 Corinthiens 9, le verset 7. Mais il y a un verset que j'ai presque jamais entendu dans notre Église. C'est le verset 6, juste celui d'avant. Et je vais vous évoquer. C'est une réalité. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est des versets qui sont chantés dans... Quand je dis ailleurs, je pense toujours à d'où je viens. Je viens d'Afrique de l'Ouest, les pasteurs. Je fais toujours cette allusion et puis ça pullule sur Internet. On chante ces versets tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Quand on sème peu, on moissonne peu. Quand on sème abondamment, on moissonne abondamment. Seulement, le dire que comme ça ne nous fait pas comprendre l'ensemble de la chose. Quoique ce soit une réalité. Cette vieille dame qui n'a donné que deux, elle a donné 100% de ce qu'elle avait. Elle n'a pas donné 10%. Elle n'a pas donné 20%. Elle a donné 100%. C'est ce qu'elle a résolu de donner dans son cœur. Et elle a donné avec joie. Elle a donné et puis c'est fini. Un verset qui dit la même chose, c'est Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué. L'image m'intéresse. Secoué. Il est déjà plein. C'est servi, c'est déjà plein. Mais on secoue encore. On secoue. Pour que ça, qu'il y en ait encore abondamment. C'est des réalités biblique. C'est des vérités spirituelles. C'est des vérités qu'on accepte ou pas. Ou qu'on a du mal à accepter. Mais c'est des vérités. Donnons. Donnons encore. Mais ne faisons pas du tort à l'évangile de Dieu. Ne faisons pas du tort à nous-mêmes en le faisant. Pour conclure, au travers les actes des apôtres, où les gens mettaient ensemble ce qu'ils ont, pour qu'il n'y ait pas de pauvres, que tout le monde vive bien. C'est certainement les prémices du communisme. La vieille veuve à qui Dieu a envoyé Élie, pas parce que Dieu n'avait pas un autre moyen pour subvenir aux besoins d'Élie. Il a déjà démontré avec le corbeau, mais il a envoyé Élie pour en réalité bénir cette dame, cette veuve. Et la veuve a passé cette étape avec succès. Elle a été bénie. Nous avons aussi vu l'autre veuve qui a donné tout, c'est 100% de ce qu'elle avait. Et pour terminer, nous avions vu avec les Corinthiens, les gens de la Macédoine, dans les Corinthiens, ce pourquoi l'apôtre Paul appelait à donner. Nous allons retenir ce verset qui reste sur notre enveloppe, le 7e verset de Corinthiens 9, verset 7. Donnons encore, je dirais, mais donnons avec joie. Parce que la maison, l'église de Dieu en a besoin. Que Dieu nous bénisse.